Et Aurélie Herbemont, votre invité ce soir dans ce studio, Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales.
Bonsoir Sébastien Lecornu.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Le Premier ministre a revu les syndicats cet après-midi à la sortie. Philippe Martinez de la CGT nous dit il y aura une nouvelle journée d'action le 9 janvier, c'est l'enlisement.
Non, c'est pas l'enlisement. Après, on sait très bien que la CGT est dans une position très dure, dans laquelle, au fond, elle refuse de négocier précisément la réforme, puisque demande tout simplement le retrait de cette réforme. Ce qui est d'ailleurs assez curieux sur le terrain démocratique, dans la mesure où cette réforme faisait partie du projet présidentiel et elle est conduite dans le cadre de notre système démocratique. Non, je pense que c'est pas l'enlisement, parce que moi j'écoute aussi ce que Laurent Berger a dit.
Alors justement, Laurent Berger,
qui a été très précis, justement à l'instant où vous avez diffusé cette prise de parole, il a fait part de trois choses. La volonté de dialogue entre le Premier ministre et les organisations syndicales. Le Premier ministre va s'adresser à la Nation dans quelques instants. La volonté d'avancer sur un certain nombre de sujets qui tiennent vraiment à cœur à la CFDT. C'est la question de la pénibilité, par exemple. C'est la question des transitions dans la fonction publique. Et puis, il y a un point dur, sans réfuter d'ailleurs le principe de l'équilibre financier, ce qui est intéressant dans la bouche de Laurent Berger.
À moyen long terme, il le dit.
La question de l'âge pivot. Et là, c'est vrai qu'il faut rappeler un peu l'intérêt de la question de cet âge pivot. C'est bien sûr, c'est l'équilibre financier de notre système de retraite. Et Laurent Berger, ce soir, j'ai cru l'entendre, en train de dire, nous, on tient à l'équilibre financier à moyen et à long terme. Et avec Édouard Philippe et le gouvernement, on dit, pour que ce système soit viable, fiable, et j'ose le dire, il ne faut pas non plus qu'il y ait du cynisme à faire reporter aux générations futures cette question de l'équilibre financier. Il faut traiter cette question dès maintenant. Et après, les choses sont assez simples, et je le rappelle quand même, pour équilibrer financièrement notre régime de retraite, soit on baisse les pensions, il n'en est clairement pas question, soit on augmente les cotisations, nous sommes spontanément défavorables à cette option-là, soit on travaille plus longtemps. Et puis on ne le dit pas assez, pour travailler plus longtemps, soit on le force, c'est l'âge légal, c'est de prendre l'âge légal et de le repousser, c'est ce que propose de manière assez brutale, par exemple, mon ancienne famille politique, les Républicains. Soit on imagine un système de bonus-malus, de retraite à taux plein, avec cet âge pivot à 64 ans, qui, je vous le rappelle, en plus a un mérite pour la décote, pour celles et ceux qui partent aujourd'hui à 67 ans, principalement d'ailleurs des personnes en carrière hachée ou des femmes.
Mais cet âge pivot, la CFDT n'en veut pas. Pourtant, hier midi, l'Élysée faisait savoir qu'Emmanuel Macron était disposé à des améliorations sur l'âge d'équilibre. Et le Premier ministre, il n'en fait rien ?
Non, déjà, il y a eu effectivement un off de l'Élysée qui expliquait que tout ça était en négociation et négociable. C'est ce qu'a dit le Premier ministre lors de son discours au Conseil économique et social. L'âge pivot, c'est la mesure auquel nous croyons le plus pour équilibrer financièrement le système.
Le président aussi.
Mais bien sûr, évidemment. Là, je vois bien aussi le petit jeu politique du moment qui consisterait à penser qu'il puisse y avoir un problème entre la majorité d'une part, le Premier ministre d'autre part et le Président de la République enfin. Non, enfin, je veux dire, tout ça est clairement arrêté et les choses et la ligne est tenue. Après, oui, il y a une négociation à avoir. Et je veux vous dire une chose, il faut le dire à nos concitoyens qui nous écoutent ce soir, autant que je souhaite qu'il y ait une trêve, non pas des discussions d'ailleurs. Laurent Berger a dit on se reverra début janvier. Moi, je reste persuadé que mes collègues du gouvernement et le Premier ministre sont disponibles.
Les réunions entre jour de Noël, peut-être pas.
Non, mais s'il faut, à mon avis, travailler et dialoguer entre Noël et le jour de l'an, il faudra le faire. Je souhaite une trêve sur la grève des transports. C'est un souhait que je formule, un vœu, c'est un droit de grève. Je ne suis pas là pour rendre les choses encore plus rigides ou autoritaires qu'elles ne sont. Enfin, en tout cas, je forme ce vœu-là. Mais effectivement, il faudra continuer de discuter sur cette question de l'équilibre financier début janvier. C'est absolument indispensable.
Alors, cet âge pivot, les réformistes sont contre, mais on voit aussi dans l'opinion que 61% des Français, il y a un sondage aujourd'hui qui dit que 61% des Français sont contre. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère ?
Moi, je refuse de commenter les sondages sur ces aspects des choses, qu'on voit bien qu'en fonction des instituts, les choses sont très différentes. Il y a aussi beaucoup de sondages qui montrent que les Français sont très inquiets de ne pas avoir de retraite, singulièrement d'ailleurs les jeunes générations ou les catégories les plus populaires. Et la sauvegarde du système par répartition nécessite quelques mesures courageuses. Et donc, la question de l'équilibre financier, il serait très sympathique, mais lâche, voire cynique, que de repousser cette question d'un revers de main et de le laisser aux générations futures. Une bonne fois pour toutes, faisons cette réforme profonde de notre système de retraite pour ne pas avoir à y revenir indéfiniment.
Alors, en attendant, les Français galèrent pour se déplacer, pour prendre le train, pour prendre le métro. Depuis quelques jours, il y a un nouveau mode d'action qui est les coupures d'électricité.
Mais qui n'est pas légal.
Les Français vont finir par vous en vouloir, peut-être, de tous ces désagréments.
Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce que l'on dit dans notre état de droit. La grève, comme d'ailleurs la manifestation, sont des droits importants et reconnus. Ce sont des libertés fondamentales et je me battrai jusqu'au bout pour que ces droits puissent exister. Bon, couper l'électricité de manière sauvage, c'est non seulement pas la grève, et en plus c'est même le contraire du service public. Et ça me fait un peu mal au cœur. Et c'est lamentable de voir des personnes qui précisément ont un statut qui les protège au nom du service public, pour des raisons qui sont historiques et qui aujourd'hui se permettent de couper l'électricité à certains de nos concitoyens. Moi j'appelle à des sanctions rapides et fermes sur le terrain disciplinaire. Enedis doit prendre ses responsabilités sur le terrain disciplinaire. Si ses agents sont mis directement en cause, c'est une faute. Elle doit être reconnue par des suspensions ou des révocations. Et je souhaite que la justice soit saisie. Et d'ailleurs, je le dis au maire de France, puisque nos concitoyens qui écoutent Europe 1 ne le savent peut-être pas, mais une partie du réseau de distribution de l'électricité dans notre pays appartient aux collectivités territoriales, aux mairies, qui sont rassemblées dans les syndicats. Moi, je demande au président de ces syndicats, au maire, de saisir les parquets à chaque fois qu'une action peut être rencontrée dans les différents territoires français. Il ne faut rien laisser passer, ce qui se passe est très grave. Il y a une dérive qui n'est pas républicaine, qui fait vraiment honte. Quand je vois M. Martinez, patron de la CGT, qui est une formation syndicale historique de notre pays, venir cautionner ces pratiques, il y a une dérive qu'on pourrait qualifier de mélenchoniste qui n'est pas belle à voir.
Vous êtes très sévère avec la CGT.
Oui, je suis très remontée, parce que c'est le corollaire de défendre le droit de grève, le corollaire de défendre les personnes qui manifestent, y compris avec le gouvernement.
Dites que vous n'écoutez pas les salariés.
Oui, mais y compris avec le gouvernement auquel j'appartiens, il y a quand même une histoire française autour de ces questions. On s'est battu pour ça. Et donc, je pense que celles et ceux qui dévoient le droit de grève, qui créent cette suspicion, qui détournent justement les lois de la République pour commettre ces interruptions brutales d'électricité, on parle de crèches qui ont été privées d'électricité. Très franchement, c'est lamentable.
Un tout dernier mot, parce qu'on va être pris par le temps, malheureusement. Qui dit régime universel, dit fin des régimes spéciaux, mais aussi des régimes autonomes. Il se trouve qu'il y a un endroit où il y a un régime autonome, c'est le Sénat, que vous ne pouvez pas forcer à adopter le régime universel.
Au nom de la séparation des pouvoirs.
Qu'est-ce que vous dites à Gérard Larcher ? Dès que la loi est votée, il faut que les sénateurs aussi passent au régime universel ?
Non, mais je crois qu'il ne faut pas caricaturer le Sénat. Il y a beaucoup de sénateurs que je connais, tout bord politique, tout groupe politique confondu, qui souhaitent intégrer rapidement le régime universel et montrer justement ce souci d'égalité et de justice avec l'ensemble de nos concitoyens. Il est vrai qu'il y a une minorité un peu dure au sein du groupe Les Républicains qui a tenté, peut-être en interne, de ce que l'on raconte, de ce qu'on nous dit, de contourner cette question. Il est urgent que la justice et l'équité s'appliquent pour tout le monde, surtout d'ailleurs chez des sénateurs Les Républicains qui veulent faire travailler les Français en repoussant l'âge légal jusqu'à 65 ans. Ça serait tout de même un tout petit peu curieux qu'en parallèle de garder ce régime autonome sénatorial.